Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur la radio au mondial où bien sûr nous allons continuer la semaine en parlant de football. Et nous reviendrons sur l'Inter Milan. L'Inter Milan qui revient sur une pelouse quelques jours après sa finale malheureuse. L'équipe va rejouer sous la direction d'un nouvel entraîneur au Mondial des clubs et face aux Mexicains de Monterrey. Dans quel état d'esprit sont donc ces Nerazzurri? Et les Merengues? Ils arrivent aux États-Unis avec l'objectif de remporter la compétition inaugurale. Foi de Vinicius, ils joueront demain face aux Saoudiens de Al Hilal. L'entrée en lice des Latinos et les supporters argentins de Boca Juniors qui font le show en envahissant Miami pour encourager leur équipe face au Benfica. Match nul, mais un match très disputé. Les Brésiliens de Flamengo, eux, ont débuté par une victoire face au club africain, l'Espérance de Tunis. Un invité d'honneur dans Radio Foot International aujourd'hui, un ancien international lui aussi, et de l'international et aussi Nerazzurri. Bonjour Olivier Dacourt.
Bonjour à vous.
Alors, on va profiter de vos connaissances footballistiques, bien sûr, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Mais le motif de votre présence ici, c'est un film que vous réalisez, co-réalisez et que vous produisez et qui sort demain en France. Ça s'appelle « Sur la route de papa ». Et vous nous direz tout sur ce film ?
Avec grand plaisir.
N'est-ce pas ? On en parlera eh bien, avec les autres invités du jour. Bonjour Yoro Mangara.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Notre ami sénégalais et puis Chérif Guémour qui est là aussi, lui de SoFoot. Bonjour Chérif.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Cette émission a été préparée grâce à Pierre Guérin et David Finzel. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Allez voir le film d'Olivier Dacourt.
Sur la route de papa.
Ça parle à tout le monde.
Des paysages de folie.
Maman, c'est quoi toutes ces affaires?
C'est rien, deux, trois bricoles.
Tu crois que cette voiture va tenir le coup jusqu'au bled?
Ça fait 10 ans qu'on a promis à ton père, faut tenir ses promesses.
Ok, on t'accompagne.
On est serré dans la voiture. C'est pénible, mais on est obligé de se parler. On se retrouve, on se découvre. Pas perdre ses racines.
Je t'aime.
C'est ça qu'on essaie de transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants.
C'est un film donc qui s'appelle « Sur la route de papa » et sort demain sur les écrans français. Un road trip, comme on pourrait dire, une balade en voiture à travers des paysages et un pays un peu à l'ancienne parce qu'on navigue, vous l'avez entendu là, entre vieux souvenirs de famille et traditions. L'histoire donc d'une famille qui, durant les vacances, retourne au bled, comme on dit ici, mais en l'occurrence, c'est un village. La famille se trouve au Maroc. Ils sont tous blottis dans une voiture, elle aussi un peu ancienne, qui date, une Renault 21, alors qu'ils auraient les moyens de partir en avion, finalement. Film donc réalisé par Nabil Aïta Kawali.
C'est ça.
J'ai réussi à le dire. Aïta Kawali. Je vous avais demandé de m'aider, mais j'ai réussi à m'en sortir tout seul. Et par vous, Olivier Dacourt. Alors d'abord, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous, l'ancien international français, ancien joueur de l'Inter, de la Roma, de Everton, d'autres clubs, est-ce qu'on doit maintenant dire Olivier Dacourt, le cinéaste?
Non. Juste Olivier
Dacourt.
Non. non, c'est, on va rester avec... humilité, parce que je mets juste un pied dedans, mais on va essayer de mettre le deuxième, parce que c'est...
Vous avez un deuxième long métrage prévu ?
Non, mais j'aimerais que celui-là se passe bien pour enchaîner d'autres.
Oui, bien sûr.
C'est important, parce que, vous l'avez dit, moi je l'ai produit.
Oui, c'est un peu votre bébé.
C'est mon bébé, ouais, parce qu'il y a un message, c'est assez profond, parce qu'on se rend compte à quel point la société est malade. Et nous, avec Nabil... On a voulu faire un film qui puisse rassembler. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de nous diviser et nous, on a envie de montrer que y a des choses qui sont importantes. Le plus grand héritage qu'on laisse à nos enfants, c'est l'éducation et le respect. C'est un passeport pour la vie.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter ?
Non, je plaisante, bah, l'argent, mais... c'est pas important. Et...
Mais c'est très, très beau. Et d'ailleurs, dans le dossier de presse autour de ce film, il y a cette phrase : pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et c'est vrai que c'est tout ce film raconte cela. Mais d'abord, comment passer de parce qu'on vous avait reçu il y a quelques temps autour de documentaire. Alors un documentaire, c'était le titre hein, je ne suis pas un singe. Et c'était autour du racisme dans le football. Vous en aviez fait d'autres pour Canal+, hein, puisque vous travaillez avec eux. Mais comment on passe d'un documentaire sur un sujet qui vous touche particulièrement parce que c'est le foot à une histoire finalement qui est autre chose.
J'ai pas fait qu'un documentaire. J'ai fait plusieurs documentaires.
Oui.
Et souvent il y a des thématiques. Et...
Ah bah c'est celui sur la retraite des sportifs qui vous a donné envie de.
Non, parce que quand on est sportif, on vit même enfant. On vit et on voit des choses. Quand on est enfant, on vit et des qui comment je pourrais dire. Quand on est enfant, on voit et on vit des choses qui nous façonnent, qui façonnent l'adulte que on viendra. Et moi, j'ai grandi dans la mixité. Donc pour moi,
à Aulnay-sous-Bois.
Aulnay-sous-Bois, c'est une évidence en fait. Il y avait pas de religion. On était ensemble et il y avait beaucoup de tolérance. On vivait en harmonie. Et aujourd'hui, je trouve que on est en danger. Et il est important de faire des choses. Ben là, ça a un sens. Pourquoi ? Parce que je suis grand-père et mon gendre est sénégalais, musulman. Ma fille est catholique. Et quand on parle de tolérance, c'est ça la tolérance. C'est-à-dire que...
S'accepter tel qu'on est.
Mais on partage les mêmes valeurs, en fait. Et être bienveillant, l'amour de son prochain, je trouve qu'on l'est de moins en moins. Et à travers ce film, nous, on a envie de montrer, c'est le catholique qui parle, que la grand-mère, elle peut avoir un voile sur la tête et en avoir plein la tête, et c'est pas ce qu'elle porte, mais comment elle se comporte. Donc juste être tolérant avec les gens, normalement en fait, se comporter normalement.
C'est les valeurs. Moi, ça me touche parce que ça parle du Sénégal, un pays dans lequel j'ai grandi. Senghor était chrétien, Colette était une Française, lui était un Africain. Ils ont dirigé le pays pendant plus de 20 ans. Après, il y a Abdou Diouf qui est musulman, sa femme, Elisabeth qui était chrétienne. On a eu Abdoulaye Wade qui était musulman, sa femme blanche, Viviane Wade. C'est comme ça l'Afrique.
Les valeurs universelles.
Qui devraient prédominer partout.
Et à Pâques, à Dakar, ce sont les musulmans qui vont nettoyer toutes les églises pour les chrétiens. Après l'hivernage, ce sont les musulmans, parce qu'on est plus nombreux, on est 98% de la population, on va désherber tous les cimetières des chrétiens. C'est ça, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on veut dans le monde.
Le respect.
Alors là, justement, votre film, lui, il n'aborde pas véritablement la religion, mais il aborde la culture, les chocs des cultures et aussi le choc des générations. Parce qu'on est de la grand-mère jusqu'aux petits-enfants. On est aussi tous à bord de cette voiture avec le fils qui a réussi, qui est marié avec une fille française puisqu'il a été élevé là. Et tous se retrouvent à partir de Paris.
Aulnay-sous-Bois où j'ai grandi.
Voilà, au Aulnay-sous-Bois d'ailleurs, exactement, d'une barre d'immeubles. Et ils partent dans cette voiture avec les bagages sur le toit et ils partent vers le Maroc. Et c'est une épopée.
Oui, c'est j'aime dire la tradition, la transhumance en fait, le retour aux sources.
Qui ne les a pas vus, hein, ces véhicules à l'envers le sud ?
Tout le monde les a vus, mais même la personne qui vit en Normandie, elle a fait le voyage, elle est partie, elle a fait 8 heures pour aller en vacances dans le sud. Donc elle s'est retrouvée la promiscuité dans une voiture. Et dans une voiture, on ne peut pas s'échapper en fait. Il y a plein de choses, il y a des non-dits, il y a des silences, puisque toute l'année, les parents travaillent. Et je trouve qu'à travers ce film, nous, on sait, tout le monde a une famille, donc tout le monde se retrouve. Et les liens familiaux dans toutes les familles sont fragiles, sont complexes, mais ils sont essentiels. Et le fait de se parler, on arrive à résoudre pas mal de choses. Et ce voyage va permettre à tous les acteurs, il y a un enjeu pour tous les acteurs. La belle-fille, Caroline, qui est jouée par Caroline Anglade, elle connaît pas trop sa belle-mère. Elle va rencontrer des choses qu'elle savait pas, en fait. Elle va découvrir une culture qu'elle connaissait pas et ça va lui ouvrir les yeux. Et c'est pareil, on a le fils qui est dans la société de consommation. Et en fait, à la fin du voyage, je peux pas tout raconter, mais il y aura un changement également. Pourquoi ? Parce que si on a des messages à délivrer, puisqu'on a fait une tournée de 60 villes, c'était profiter de chaque instant de vos grands-parents, de vos parents, on leur disait aux enfants, parce qu'ils ne sont pas éternels. Et le jour où ils vont partir, vous allez ressentir une grande absence. Moi, quand ma grand-mère est partie, j'ai fait un ulcère. Parce que je ne lui avais pas dit pas assez souvent « je t'aime ».
Oui, mais je pense que ça, justement, c'est un film qui sur cela, parle à tout le monde. Mais alors, comment vous vous êtes retrouvé co-réalisateur ? Parce que vous avez dirigé les artistes,
oui.
Vous ?
Ah oui, oui, moi, mais étant le producteur, je suis plutôt le méchant. Parce qu'en fait, les rôles étaient bien définis. C'est que moi, je m'occupais de tout ce qui était les images, tous les prises de vue. Et après, juste avant, puisque Nabil n'avait jamais réalisé, mais avant, pour aller parler aux acteurs, on se concertait, puisqu'on travaillait en amont, et lui leur parlait. Moi, je leur parlais, j'y allais sur le set que quand ça se passait pas bien. S'ils avaient un fou rire, puisque c'est arrivé. Bah, quand c'est votre argent, bah, c'est pas la même chose.
Et oui.
Donc, j'intervenais à petite dose, mais je préférais, il faut un good cop, bad cop. Et moi, je préférais le bad cop. C'est mieux, parce que j'ai des mots qui sont importants. Rigueur, discipline, abnégation.
Et est-ce que vous avez appliqué une formule, finalement, d'athlète de haut niveau ?
De coach ?
Mais exactement. Tout à fait. Pour tirer le meilleur de tes acteurs.
De l'équipe. Et de la journée.
Non, mais je pourrais raconter, parce que c'est très sympa. Mais il y a un acteur avec qui j'avais beaucoup d'affinités. Et avant, j'ai été même en Belgique le chercher. Et comme il y a une scène très importante où il doit nourrir de la frustration pendant 3 jours, je n'ai pas adressé la parole. Il venait, je ne lui parlais pas. Je partais ailleurs. Et je sentais qu'il avait la rage. Et le jour de la scène, je lui dis, écoute, tu vois toute la rage que tu as là aujourd'hui, toute la rage là. Ben, je veux que tu me montres ça maintenant. Tu es en face de c'est l'architecte, maintenant tu dois lui montrer toute la rage que tu as gardée depuis le voyage là. Et en fait, c'est sorti et la scène, elle est on n'a pas pris la meilleure, mais elle est impensable. Et là, tu te dis, ben, c'était pas mal. J'aurais pu être un entraîneur sympathique.
En tout cas, c'est vrai que c'est un film choral en plus, parce que vous êtes ami du co-réalisateur, vous êtes ami de certains comédiens. Donc finalement, est-ce que ça a créé une osmose aussi pendant le tournage ?
Mais c'était obligé parce que...
C'était une aventure...
Ouais, c'est
comme une compétition ?
Cette semaine, mais nous, on a créé...
une Coupe du Monde, cette semaine.
Grâce à Farida Houchani, l'actrice qui joue le rôle de la grand-mère, un esprit de famille. Et il y a des choses qui sont importantes. On parlait du respect. Ben, la première chose que j'ai fait quand on est arrivé au Maroc, ben, j'ai réuni tous les techniciens, français, marocains et les acteurs, pour leur dire que j'accepterai pas de manque de respect. Personne ne manquera de respect à personne, parce que tout le monde est important et personne n'est indispensable ici. Et à partir du moment où nous, ben, les réalisateurs, ben, on se comporte respectueusement, ben, quand on mange, on prend notre assiette et on la débarrasse, ce qui est normal. Ben, les autres vont pas... Nous, on est censé montrer l'exemple. Donc, à partir du moment où on est toujours très respectueux avec tout le monde, ben, c'est pas les acteurs qui vont manquer de respect. Et je crois que c'est la grande victoire de Luis Enrique, c'est ça. C'est-à-dire que le collectif, il est beaucoup plus important que les individualités. Et c'est pour ça qu'il gagne la Ligue des Champions. J'ai fait un parallèle, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le mec.
Bah oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre regard sur ce travail, alors que vous étiez un professionnel de haut niveau d'un autre monde qui était le football.
Ouais, mais la préparation, c'est un athlète de haut niveau, il se prépare pour arriver sur un set. Bah, il y a des mois et avec qui on s'entoure. Moi, j'ai eu la chance j'avais un co-scénariste qui s'appelle Hakim Zouani, bah, qui avait déjà réalisé La Cour des Miracles avec sa femme, Karine. Donc forcément, il arrive, lui, c'est le scénariste, mais on peut s'appuyer sur son expérience. Après, en chef-op, j'avais Thierry Arbogast, il a 3 ou 4 Césars. C'est le prix du désir. Mais on est dans la transmission, et si on souhaite, en tout cas, faire une carrière assez longue en tant que réal, bah, commencer avec Thierry Arbogast. Ben, on s'achète, c'est le prix du désir, et surtout c'est assurance tout risque. Pourquoi ? Parce qu'il a tellement d'expérience.
Alors, il y a une toute petite touche football quand même dans ce film, très légère. On a évidemment les enfants qui à un moment se retrouvent en train de jouer, le maillot de l'équipe de France de 2018. De l'autre côté, on a des maillots marocains, bien sûr, puisqu'ils se retrouvent au Maroc. Et ça, c'était des petits clins d'œil sympas. Et puis alors, au hasard d'une étape, on se retrouve face à Robert Pires.
Mais Robert, il a fait ce voyage. Il partait de Reims et il allait au Portugal. Donc, il l'a fait, ce voyage. Et quand il me parle du voyage, ben, il y a... Pour tous, on a, quand on parle de nos voyages, ben, il y a des souvenirs, il y a la nostalgie en famille et ça nous rappelle plein de choses. Et quand je lui parle de ça, ben, je vois qu'il a les yeux, puisque je suis observateur, il avait les yeux qui brillaient et tout. Je lui dis, écoute, Robert... Au départ, on lui avait donné un rôle, un portugais. Et mais tout le monde, quand on voit Robert, c'est Robert. Donc,
bah oui.
On lui a dit qu'il allait jouer son rôle parce qu'il avait beaucoup de pression. Mais c'était pour montrer que ben, les Italiens, les Portugais, les Espagnols, ben, même les Antillais, les... on l'a fait. Ce n'était pas le même moyen de transport. Ce n'était pas, la voiture, mais c'était l'avion. Mais la préparation, elle est... Aller chez Tati, acheter des cadeaux pour voilà. toute la famille qui nous attend. Ouais, le ça. Retour, quand on est arrivé, tout le monde était là parce que tout le monde attendait son cadeau. Mais c'est des choses où quand on repartait, on avait, je sais pas, 70 kilos. Il y avait les bagages qui débordaient. Finalement, quand on revenait, il y en avait un peu moins parce que on avait tout laissé sur place. Les baskets, tout. Et je pense que tout le monde, Sénégalais, Maliens, Côte d'Ivoire, tout, en Afrique déjà, c'est pareil au Maghreb, c'est la même chose.
Non, mais on l'a vécu, hein, nous. On n'avait pas de voiture, on y allait en avion, mais bon, après, tous mes potes, évidemment, l'ont fait. Alors, pareil, ça part de Paris, et ça traverse la France, ça traverse l'Espagne, Détroit de Gibraltar, le bateau, puis après, jusqu'au Maroc, Algérie.
Algérie, c'est ouais. ça.
Nous, on l'a pas fait, on n'avait pas de voiture. Mais bon, mais c'est, l'idée est bonne. L'idée est bonne.
Même les personnes qui n'ont pas fait le voyage, ouais. tu as vu les gens préparer ce voyage.
Non,
tu
avec les mâles sur la.
Avec
sur
les mâles, mais on les aidait. Nous, on les aidait. On ouais. se disait toujours, ah, c'est des fous. Comment ils font ? Mais la voiture, elle était chargée à bloc. Et c'est ça. Et le souvenir que j'ai de ces voyages, parce que ouais. moi, je l'ai fait, on a fait le périple avec Nabil. Mais dormir dans la voiture, j'avais jamais dormi dans une voiture.
Ouais.
Attendre le bateau pendant des heures,
la chaleur. Sais pas si tu...
la chaleur.
Avoir son
mais imagine, il y avait pas ouais. à l'époque, il y avait pas d'autoroute
ouais.
et il y avait pas de
signalisation,
il y avait rien, les voitures, il y avait pas de clim. Et c'est pour dire que c'était vital pour c'est les immigrés un petit peu qui font ce retour souvent, mais c'était vital pour d'aller voir la famille.
Bien sûr, se ressourcer.
Ils se privaient toute l'année, mais ce voyage, il était tellement important pour retrouver les siens, pour retrouver la famille que...
Et parenthèse, Olivier Dacour, en ce moment, au Grand Palais,
oui, je
sous
sais,
la Verrière, il y a une exposition qui était au Mucem de Marseille l'année dernière, avec des Renault 12 notamment, chargés de bagages sur le toit, et qui, pareil, pour retracer, ça s'appelle le voyage de ma mère, hein, je crois, c'est sur la route de papa, et là-bas, c'est le voyage de ma mère.
Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ?
Ah mais non !
Parce que nous, cette date, elle est prévue, on ne savait même pas, mais je dis, sur ce film, en fait... Il n'y a pas de hasard. Le hasard,
voilà, c'est ça.
C'est l'apparence que prend Dieu sur terre pour passer inaperçu. Ça devait se passer comme ça.
Et c'est très beau parce qu'à la fin du film, je divulgue rien, mais il y a des images d'un même voyage, mais des images de Lina, c'est-à-dire des images de vraies personnes et ça, sur le générique de fin.
Ça
et c'est très beau.
Ça corrobore tout ce qu'on raconte
exactement.
Dans le film, en fait.
Exactement.
Nous, on a pris, c'est une histoire... C'est une histoire, mais qui fait écho à toutes les histoires de tout le monde.
Yoro, vous l'avez fait, vous, ce voyage ?
Et puis, il y a cette solidarité en amont, toute la famille qui vient vous dire au revoir avec des 20 euros par-ci, par-là, pour préparer une petite enveloppe. Ça me parle aussi.
Pour le donner à la famille.
C'est exactement ça, en fait. Tout le monde a une famille. Tout le monde. Tout le monde a une famille.
Il y a le stress du bateau à ne pas rater aussi.
Tu sais pas.
C'est du stress jusqu'au port.
Avec oui. Shérif, on a travaillé ensemble il y a longtemps. mais tout ça, en fait, cette nostalgie, les souvenirs, ben, je trouve que c'est important parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, on ne se parle plus.
Ouais.
On ne profite
et
plus.
Et
on
en croit fait. Qu'on s'est parlé parfois.
Ouais, il y a moins de partage. Et là, c'est l'idée, c'est vraiment de partager... un vrai moment, ce voyage il est plus pour les enfants, même pour les enfants, ils connaissent pas leur grand-mère, et en termes de transmission, c'est important. La transmission, c'est la base, les fondations, les grands-parents, c'est la base.
Est-ce qu'il est prévu de divulguer ce film précisément dans des pays qui sont concernés indirectement par ces voyages, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique du Nord?
Le Maroc, probablement. Après, il y aura peut-être une adaptation. Mais nous, là, on se bat parce qu'il y a des messages qui sont très forts. Donc, nous, on se bat pour... Il y a, par exemple, la maman et le papa de Nabil. n'étaient jamais allés au cinéma. On les a fait rentrer pour la première fois au cinéma. La maman de Nabil, elle est voilée. La première fois qu'elle rentre dans un cinéma, elle voit le film de son fils. Et c'est des beaux messages, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on voit un Marocain qui est architecte. On voit une grand-mère voilée qui est brillante. Et on n'a pas l'habitude de le voir à la télé ni au cinéma. Donc nous,
vous
c'est
avez
vraiment...
cassé les codes aussi, effectivement. Ou les clichés, plutôt.
Ou les clichés, ouais. Mmh. Surtout, on a voulu montrer que peu importe la religion, peu importe d'où on vient, l'éducation, elle est là, en fait.
Mmh. Merci beaucoup,
merci
Olivier Dacour, de nous parler avec tant de foi et de passion de ce film. Et bien, comme on l'a entendu tout à l'heure, on invite tous les gens à aller voir ce film quand ils le pourront ou à y assister de la manière qu'ils pourront. Il y a une musique dans ce film qui est très intéressante.
C'est laquelle ?
Et qui revient.
Non, je ne crois pas que c'est dans mon film.
Non, ce n'est pas dans le film, mais c'est la musique qui revient d'un groupe marocain et dont Nabil parle. Et
ah, Nasser.
Il fait,
ouais, d'accord.
Il fait le parallèle.
Nasser Riwan, non
c'est ouais,
ça,
c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais. C'était les Rolling Stones de l'Afrique.
Voilà, c'est ça.
Du Maghreb.
Et
auquel ils font allusion à un moment quand, évidemment, on n'écoute pas les mêmes musiques dans la voiture non plus.
C'est ça.
Les gens du voyage, Nasser Riwan.
Allez, on continue dans Radio Foot parce que on va parler aussi ballon rond et mondial des clubs.
Today, I want to tell you a story about football.
Nah, not this football.
The one we in the US call soccer, the world's game. It will be called international because we are brothers and sisters of the world.
La voix de Spike Lee, le grand cinéaste américain, grand amateur de foot, il raconte dans un petit clip que vous pouvez trouver sur YouTube de 3 minutes, qui est très bien fait, eh bien, l'histoire du nom du club Internazionale. Ça s'appelle « My name is my story ». C'était il y a bien longtemps, en 1908, lorsqu'on avait fixé le nom de ce club. C'est toujours présent à Milan, Olivier Dacour, cette histoire de « Internazionale ».
Beaucoup, en fait. Il y a beaucoup d'étrangers à l'Inter.
Voilà, parce qu'au départ, c'était interdit qu'il y ait des joueurs étrangers qui jouent dans des clubs italiens. Et l'Internazionale avait décidé de faire autrement. Et son propriétaire ou président d'alors, qui s'appelait Giorgio Mugiani, il avait cassé le code.
C'est ça.
Il avait triché, enfin, il avait rusé. Il a rusé avec Internazionale pour internationaliser son équipe.
C'est ça, mais depuis tout temps, en fait, il y a toujours eu... je me souviens, quand j'étais à l'Inter, il y avait 3 Italiens. Il y avait Toldo, Materazzi et la première année, il y avait Grosso. Sinon, c'était que des étrangers.
Et c'est une tradition qui se perpétue
qui perdure,
du côté de l'Italie. C'est vraiment un petit clip qui est très bien fait. Spike, il y a des lunettes bleues, on voit le Duomo, et voilà. Mais c'est une propagande faite, d'ailleurs, entre guillemets, par l'Inter. Est-ce que Euro, c'est pour partir à l'assaut des États-Unis ? Parce qu'évidemment, ça, c'est en parallèle de l'entrée en lice de l'Inter cette nuit dans le Mondial des clubs.
Forcément, tous les clubs sont à la recherche d'argent et de fonds. Donc, on a vu l'exposition, ce que le PSG est en train de faire sur place également. Il faut trouver de nouveaux marchés, trouver
des partenaires,
mais également un nouveau public qui va acheter les maillots et forcément...
Et qui va acheter les matchs aussi.
Les deux.
Mm-hmm. Non, il y a une diaspora italienne importante
aux États-Unis.
Ça compte, ouais. Ils jouent dessus. Ouais.
Et oui, oui. Et puis alors sur cette histoire d'étrangers, d'incorporation et tout, c'est en tout cas très bien fait. Et Nerazzurri rechausse donc les crampons 18 jours après cette triste manita dont ils ont encore la marque, pas forcément sur la joue, mais sûrement dans la tête. Olivier Dacour, qu'est-ce que vous nous direz ? Comment vous l'avez comprise, cette finale à sens unique de l'Inter Milan ?
Je dirais que la finalité de tout ça, c'est...
Vous avez souffert pendant cette finale ?
Non, parce que je suis parisien.
Ah,
je suis parisien. Donc
d'abord, avant d'être Inter.
Non, parce que l'Inter a gagné 3 Ligues des Champions déjà. Donc, Inter contre un autre club, je suis l'Inter, mais mes enfants supportent Paris. Et on parlait du film avant, la transmission. Mais moi, je suis heureux de voir mes enfants très heureux. Ils ont eu la chance de voir Paris soulever une Ligue des Champions et j'ai vu tellement de joie. Et ils pleuraient. J'avais mon fils Lenny, il pleurait de joie. Et ça, pour tout l'or du monde, c'est ce que je souhaite. Moi, j'ai eu la chance de gagner avec l'Inter. Mais aujourd'hui, je ne suis plus à l'Inter. Et de voir mes enfants, de voir la ville, de voir même le pays, ben, c'est la France. Quand Paris brille, c'est la France qui brille. Après, même pour les Marseillais, cette petite guéguerre, ben c'est beau, c'est ça. C'est pour ça qu'on aime le football, qu'ils achètent le maillot de l'Inter. Il n'y a que des gens passionnés qui peuvent faire ça. Les gens, ils ne peuvent pas le comprendre.
Ouais. Et l'Inter, alors, cette finale ?
Ouais, mais après le deuxième but, quand ils marquent le premier, ben une fois que tactiquement, ils ont déjoué... parce que l'Inter, défensivement, c'est dur. Et une fois qu'ils sont menés, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Ouais. C'est pas pareil. Et le plan d'Inzaghi n'a pas marché. Et après, à 2-0, 3, 4, 5...
Ils ne pouvaient pas changer de plan à 2-0 ?
Non. Non, ils ne peuvent pas parce qu'une semaine avant... Les têtes... Et je pense qu'une semaine après, il arrête l'Inter. C'est qu'il y a une cassure avec... je pense qu'il y a une cassure avec les
avec
joueurs
du... groupe ?
Avec le groupe, ouais.
La finale ?
Avant, mais même depuis quelques mois. Parce que quand on a un Zelensky... qui a été champion avec Naples, qui est exceptionnel, qui ne joue pas, on se dit qu'il y a quand même un problème avec... peut-être qu'il y a un problème relationnel avec Inzaghi.
Mmh. Ouais, et puis après, on en a parlé ici, il y a la longue séquence de presque 5 saisons. C'est pour ça qu'on l'avait dit avant la finale, c'est ce soir ou jamais, parce qu'ils sont en fin de cycle. C'est des joueurs extraordinaires. On les voyait très forts et tout. Puis en fait, dans la dernière ligne droite, et c'est ça qui m'inquiète un peu, parce que cette Coupe du Monde, là, avec tous les matchs qu'ils ont accumulés sur la fin de la saison, entre la Coupe d'Italie, le championnat d'Italie, la Ligue des Champions...
Ils ont tout perdu, hein.
Ils ont tout perdu,
justement.
Donc déjà, il y a un trou dans la tête. Comme
ils n'étaient pas loin d'un...
Alors, un trou noir dans la tête.
Comment fait-on pour reprendre la compétition ? Dans quel état d'esprit est-on ? Eh bien, la réponse avec El Toro, Lautaro Martinez, l'Argentin, qui a répondu à cette question.
C'est sûr que ce fut un coup très dur, mais le football est ainsi, les matchs continuent et il faut tourner la page. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, une autre compétition et nous nous sommes préparés de la meilleure manière, avec la même envie de toujours d'aller le plus loin possible. C'est une formule nouvelle et on s'y est préparé, bien j'espère, pour débuter face à une équipe de Monterrey, de bonne qualité, qui a des joueurs importants et un style de jeu clair. Alors, on verra.
Est-ce que c'est aussi simple, Chérif, de se remettre sur les rails après ce difficile moment, disons ? Une vingtaine de jours ont passé.
Je ne sais pas. Pour moi, il y a une accumulation. Puis en plus, on change de continent. Mais par contre, dans le cas de Lautaro, je doute absolument pas de sa détermination. Vu qu'il n'était pas à 100%, il était encore un peu blessé quand il fait la finale. Là, je pense qu'il doit être remis. Et on va voir ce que cette équipe a dans le ventre. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai aimé l'Inter. C'est une équipe qui a une fierté. Donc, je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont vraiment se donner. Mais est-ce qu'ils ont les moyens physiques ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. N'oublions pas qu'ils ont joué avec l'Italie, la plupart.
Qui va compter le plus, Olivier Dacour ? Est-ce que ça va être le psychologique ou le physique ?
Les deux, parce qu'ils sont liés. Si la tête n'est pas là, les jambes ne peuvent pas suivre.
N'avance pas.
Mais en revanche, il y a Christian Kivu. Et Christian, il a tout gagné avec l'Inter. Il avait la Primavera avant. Il a cette passion. Et humainement... Après, je connaissais un peu Simone, mais
le nouvel entraîneur. Hein.
Ouais.
Qui sera là, hein, Simone Inzaghi, avec une autre équipe.
Avec une autre équipe.
On va en parler après.
C'est très étrange, mais Christian, il va apporter ça, cette sérénité, parce que c'est peut-être l'un des joueurs de football que j'ai vu les plus brillants. Il est brillant, il est instruit, il est impressionnant. Donc il va savoir
les prendre.
Ouais, il a pris Parme, il est resté à Parme 6 mois, il a sauvé Parme. Hein.
Bien sûr.
Yoro, justement, est-ce que c'est même la bonne compétition pour se remettre d'aplomb, autant pour les joueurs, on change de continent, c'est une nouvelle compétition, comme dit Lautaro, donc tout est un peu nouveau. Et puis eux-mêmes, c'est un nouveau départ un peu pour ce groupe.
La chance qu'ils ont, c'est de replonger très vite après, parce que ça permet d'oublier. Et puis, comme il l'a dit, Christian Chivu vient d'arriver. Il va essayer d'écrire une nouvelle page pour cette équipe de l'Inter. Il n'a entraîné que 13 matchs, je crois, en Serie A. Mais il a l'avantage de connaître la maison, d'avoir été à la Primavera, d'avoir également... Je crois qu'il a été choisi parce qu'il a Moi, j'ai regardé quelques matchs de Parme. C'est dans la même organisation tactique. Les trois derrière, les cinq au milieu et les deux de devant. Il avait Pellegrino et Boni à Parme. Et là, ce sera la même organisation. 3-5-2, c'est du classique. Et je crois parfaitement que ça peut être un mariage qui va valoir du bien à cette équipe de l'Inter.
En plus, jouer contre Monterrey, l'équipe mexicaine, c'est pas comme jouer contre un grand club tout de suite en Ligue des Champions ou quoi. Non, mais c'est... je vous vois sourire.
Tous les matchs sont difficiles. Hein.
Oui, mais là, c'est peut-être il y aura
c'est
un
pas
public...
Paris non plus, ouais, c'est ça.
Oui, voilà, ouais. C'est ça. Ils vont pas se retrouver contre le Paris Saint-Germain comme l'Atlético, quoi.
Mais... Non, vas-y, vas-y.
Non, mais déjà, je pense que toutes les équipes qui sont arrivées, là, elles sont free, déjà. Là, la période de cette saison, je trouve que c'est dur pour les...
C'est dur pour les joueurs.
Ouais, c'est dur pour les joueurs, parce que la saison, elle a été super longue. Ils sont morts physiquement. Ouais. Alors oui, c'est une nouvelle compétition, mais ils arrivent, on est 18 juin, ils se sont tapés...
éliminatoires des éliminatoires du monde.
Bah, le grand joueur, le mec qui est en équipe nationale, mais ouais. Il a pas pu souffler, en fait. Ouais, ouais. Donc, c'est pas un robot, et il peut exploser. J'ai juste peur. Et s'ils sont fatigués, bah, le niveau de la compétition va pas être super bon, en fait.
Et dans certaines villes, il y a la chaleur également, c'est très compliqué.
Il y a la chaleur et puis les publics aussi, on va en parler tout à l'heure du public. C'est vrai que là, on n'est pas loin, les Mexicains.
C'est un continent.
On se souvient de la Coupe du Monde 94, ils avaient déjà eu très chaud. Ils auront très chaud l'année prochaine et en attendant, ils ont très chaud cette année. Bon, ça sera donc cette nuit et ça sera le match entre donc Monterrey River et l'Inter Milan. Et ça sera à 3h du matin. Donc, si vous veillez, eh bien, vous pourrez.
On a déjà les billets là.
Qui le diffuse, juste par curiosité?
DAZN.
Et c'est gratuit.
D'accord.
En France.
Ah, c'est gratuit
pour l'instant.
Gratuit.
Oui, cette compétition est gratuite et les grandes chaînes comme TF1 peuvent retransmettre des matchs et ça a été le cas avec
le PSG.
Avec le PSG.
Et
peut-être pour peut-être aussi Real. Je ne sais pas s'il y aura, mais en tout cas.
Merci beaucoup.
Voilà pour ce qui est le club mexicain fait partie de ces latinos et justement les latinos sont entrés en lice et pour certains ça s'est vu. Bombonera transposée à Miami. Hier, los hinchas de Boca, les supporters de Boca, avaient envahi la plage de la cité balnéaire de Floride. Dale, Boca, on les entend chanter tous ensemble. Ils chantaient les louanges de leur club aux couleurs si fameuses bleues et jaunes, avant de rallier le Hard Rock Stadium. Et ils occupaient 40 000 des 55 000 places de spectateurs. Alors, c'est le club du quartier portuaire de Buenos Aires, 35 titres de champion d'Argentine, 6 Copa Libertadores. Et eux aussi, ils ont leur Marseille ou leur PSG. Et c'est contre le club de River. Vous avez vu cette ferveur sur place, Olivier Dacour?
Ouais, j'y suis allé deux fois. La première fois, j'y suis allé. C'était Boca qui avait envoyé River en deuxième division.
Ouais.
Vous vous rappelez?
Exact.
Et deux ans après, j'ai fait le match, le retour. Et ça avait fini un partout. Et dans quand on parlait de la passion... Tous les supporters de Boca, ils avaient un drap blanc et ils avaient mis B, comme ils appelaient ça le fantôme de la B.
De la série B.
De la série B, le fantôme de la série B. Et tu voyais tout le stade, les supporters, ils avaient ça. Et quand on parle de passion, mais le football en Argentine, c'est l'opium du peuple.
Ah ouais, c'est une passion
incroyable. Il n'y a pas mieux en fait. Je te jure que je pleurais, c'est incroyable.
Avec les tribunes qui tremblent, c'est vrai à la bombe.
Non, c'est surtout le stade, ouais. Il paraît que quand ils sont dessus, tu sens que
la pelouse. Ils ont deux derbies, il y a Boca River, mais il y a également Newell's contre Rosario Central. C'est un truc de dingue.
Hein. Oui, et puis même Racing, Independiente,
ouais,
tout ça, c'est
le stade, il contient 35... Il contient 35 000, ils sont 80 000 dans le stade.
Estadio Centenario. Alors, ils ont joué face au Benfica de Lisbonne. Alors lui, c'est 38 titres de champion du Portugal et de Ligue des Champions, mais qui commence à dater, c'était les années 60. Le match a été aussi échevelé que l'ambiance en tribune.
Ouais, c'était pas mal.
Ça s'est terminé sur 2-2, mais ce sont les Argentins qui, au début, ont mené 2-0, Chérif.
Oui, oui, avec deux jolis buts. On croyait que... Moi, déjà, ce qui m'a surpris, parce qu'on parlait de fatigue, quand même, il y avait de l'engagement. Ça allait d'un but à l'autre et tout. C'est, Boca a bien commencé. J'ai bien mis le premier but. J'ai oublié le nom des joueurs parce que, bon, on va être honnête.
Alors, un des buteurs, c'est Miguel Merentiel. Voilà. Et l'autre, c'est Rodrigo Bataglia.
Voilà, c'est...
Pour
c'est
ce qui est de...
De la tête, ouais, sur ouais, un renvoi.
De Boca.
Et puis après, bah...
Ils se sont fait avoir par des Argentins.
Ouais, ouais, justement.
Les Argentins
dire,
du Benfica.
Di Maria sur penalty.
Ouais.
Et
Nicolas Otamendi.
Otamendi, évidemment. Et en fait.
Les Increvables, en plus. Hein, parce que
les Increvables, champion du monde.
Du côté de Benfica.
Ouais. Champion du monde. Et en fait, on voit que déjà le public a suivi parce que tout le monde doutait de la. Du succès populaire. Et en fait, non, les stades sont plutôt pas mal remplis. Et surtout, l'engagement des joueurs. On s'était dit, ben tiens, qu'est-ce que ça vaut ? Parce qu'on attendait ça aussi, les confrontations entre clubs européens et clubs sud-américains. Moi, que j'étais étonné de la bonne tenue de Boca. Et puis, l'engagement surtout. Quoi. Je veux dire, à 2-0, on se dit, bon, c'est fini, puisqu'ils sont en vacances. Non, ils ne sont pas en vacances. Ils sont revenus au score. Et pour la première place, parce qu'évidemment, on va rentrer dans la compétition, ça va être chaud hein, pour les deux équipes. Mm-hmm. Mais c'est une bonne surprise. Hein.
Ouais.
Moi, j'étais.
Euro, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette rencontre ?
Moi, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est toute cette passion que les joueurs de Boca ont.
Ah oui, ça chantait dans les tribunes.
Oui, mais déjà, je ne disais pas qu'ils étaient en train de découper les joueurs, mais ils mettaient cette rage sur tous les ballons. Je me disais, je comprends pourquoi après, quand je vois Paredes jouer en Europe ou Diego Simeone, c'est leur ADN, c'est-à-dire c'est tout donné, quoi.
Après, on va être honnête aussi.
Il y a
aussi...
eu trois cartons rouges quand même ouais. Dans la rencontre.
Parce que parfois,
ça, c'est pas
ça,
à l'honneur des joueurs.
Faut être honnête aussi, c'est quand c'est un coup de projecteur pour éventuellement des contacts
Europe,
avec, voilà, avec les grands clubs européens.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous pensez de cette compétition sur ces rencontres finalement, Olivier Dacour, entre des clubs qui se rencontrent si rarement? Parce qu'on a des compétitions continentales pour les clubs, mais intercontinentales, c'est rare.
Et vous me posez la question, demain j'ai mon film qui sort, mais j'ai pas trop suivi. Mais je trouve que pour tous les joueurs sud-américains, c'est la meilleure vitrine, c'est la compétition. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les clubs européens. Mmh. Et quand on est joueur, j'imagine qu'on est joueur au Mexique, la meilleure opportunité... c'est d'être bon contre les équipes européennes.
Mmh. Comme les équipes africaines. Hein,
c'est exactement pareil en fait. Ouais, ouais.
Les voilà ex aequo en tout cas derrière le Bayern et devant Auckland City dans ce groupe C. Puis Flamengo a réussi son entrée par une victoire, hein, les Rubonegro.
Espérance.
Ils jouaient à Philadelphie.
Face à l'Espérance.
Pas mal.
Et 2-0 pour...
Le score est un peu sévère. Hein.
Sévère parce que quand même, ils ont fait un excellent match à l'Espérance de Tunis avec un très bon Youssef Belaïli.
Absolument.
Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans ce club-là. Quoi. Il a 33 ans, certes, mais c'est du gâchis. Ajaccio, puis Brest. Il aurait pu faire une meilleure carrière parce que techniquement, ce qu'il a fait hier...
Non, mais ça ne suffit pas. C'est le talent. Le mental est important, le mental. Et son talent, le talent intrinsèque, il est incroyable. Il est exceptionnel. Mmh. Mais je pense qu'à un moment, il y a quelque chose qui...
La discipline,
ouais.
S'il
n'y a pas de discipline, il n'y a pas de résultat.
Une carrière à cause de ça. Et ce n'est pas le seul exemple, malheureusement. En tout cas, ils ont donc gagné. Ils sont ex aequo avec Chelsea dans ce groupe D. Palmeiras, lui, de São Paulo, a commencé par un 0-0 face au FC Porto dans le groupe A. Avant de parler du Real Madrid qui revient dans une compétition et la compétition, quelques notes de musique brésilienne. Gabriel da Rosa, do Brasil donc, et ça, le titre c'est Pepa Tupa.
Vous parlez bien le portugais.
Si alguém tem sabiá na gaiola, eu sei quem tem, cara. Verdade, eu sei quem tem. Pepa Tupa. Pepa, tupa, pepa, pepa.
preço a se pagar pelo interesse de buscar tudo aquilo que nós não queremos. Vira mundo, virará e jamais aceitará um mundinho assim tão pequeno. Onde não canto sabiá, onde não canto sabiá, onde jamais se ouve o canto do sabiá. Preço maior a se pagar, continuando a retardar, transformação crucial e necessária. Vira mundo, revirou e já não mais encontrou toda a vida que jaz e não floresce. Onde não canto sabiá, onde não canto sabiá, onde jamais se ouve o canto do sabiá.
Au Brésil, qui nous permet de voyager pendant cette pause avant d'évoquer eh bien, un club qui rentre en compétition et que tout le monde attend, c'est le Real Madrid.
Desde París, es el marco de la final de la primera Copa de Europa que disputan el Reims, campeón de Francia, y los campeones de España. Como se ve, tuvo el partido un comienzo esperanzador para las ilusiones francesas, pues los Remois colocaron en los 10 primeros minutos 2 goles en la portería de Alonso.
Et voilà, ce petit flashback, ils ont remporté la première Ligue des champions de l'histoire. C'était en 1956, hein, créé par des confrères hein, à l'époque du journal L'Équipe. Et le Real Madrid, les Merengues, veulent aussi marquer cette nouvelle compétition de leur empreinte. Le club aux 15 Ligues des champions entre en lice demain soir face au Al Hilal, club d'Arabie Saoudite. Les joueurs n'ont pas vraiment réussi leur saison. Ils veulent donc en découdre. En tout cas, c'est ce qu'assure Vinicius, clair dès l'entrée.
Tout le monde est très heureux. Nous sommes prêts à nous adapter au programme, à la chaleur, au climat, à tout. Nous sommes tous là, préparés. J'ai déjà un peu échangé avec Xabi Alonso. Nous sommes heureux qu'il ait réussi à venir nous aider. J'espère qu'il va passer une belle saison dans le plus grand club du monde. Maintenant, il est temps de continuer à travailler dur afin que nous puissions gagner beaucoup de choses avec lui. Je suis impatient de remporter cette Coupe du Monde des clubs, car les gens n'oublient jamais la première. Et c'est le seul titre que Madrid n'ait pas encore gagné.
Olivier Dacour, est-ce que c'est la marque d'un grand club de dire d'entrée, on est là pour remporter la Coupe, de n'être jamais rassasié, disons?
C'est le plus grand club du monde, donc oui.
Ils sont obligés même de le dire? Parce que par exemple, l'Inter Milan dit on veut aller le plus loin possible. Ça n'exclut pas la finale.
L'Inter a 3 Ligues des Champions, le Real en a 15. Donc c'est une institution. Quand on arrive à Madrid, quand on voit toutes les Ligues des Champions, ben, on se dit déjà, quand on arrive à l'Inter et on voit tous les trophées, on se dit ah, on sait où on met les pieds. Alors là, Madrid, c'est une dimension encore supérieure. Mais c'est normal.
Alors cette entrée en lice du Real Madrid, il y a déjà une incertitude autour de Kylian Mbappé, dont on attend...
Bellingham aussi, on lui a demandé de reporter son opération à l'épaule. Hein.
Mm-hmm. Est-ce que quel est ce Real Madrid qui arrive, Yoro? Dans quel état, selon vous, sont-ils?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ils se sont renforcés déjà. Côté droit, ils ont pris Trent Alexander-Arnold qui va jouer. C'est mieux que ce qui était là lors de la dernière Ligue des Champions. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup plus d'automatisme. Après, j'ai entendu Xavi Alonso dire qu'avec lui, il faudra beaucoup courir. On va voir.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
C'est ça. Donc, on verra si les attaquants vont courir plus.
C'est une bonne chose. Hein. Xabi Alonso, c'est arrivé comme ça, malgré toutes les critiques que j'ai pu faire sur la Coupe du Monde. Mais là, je me mets à la place de Xabi Alonso. C'est direct. Il est en condition réelle. Il a son équipe qui est au complet, à peu près. Donc, et voilà, il arrive dans une grande compétition. Ça va monter en puissance. Et là, pour une revue d'effectifs, tôt dans la saison, comme ça, avant que la vraie saison commence.
Bah oui, c'est presque une pré-saison.
Et ils ont pris un défenseur central aussi, Hulsen.
Non, mais pour lui, c'est il arrive au bon moment parce que le Real a fait une année de merde. Et lui, il arrive.
Son deuxième du championnat.
Oui, mais pas quand on est le Real.
Non, le Real, il n'y a pas d'année de transition, je suis d'accord.
Il n'y a pas d'année de transition.
Mais il y a Barça en face quand même.
Oui, mais il faut gagner. Il n'y a pas un titre. À partir du moment où il n'y a pas un titre, c'est une année de merde.
C'est surtout sur le style de jeu qu'on a tous été frustrés.
Ils n'ont pas pris un titre. Quand on est le Real, ce n'est pas possible. Ouais. En plus, avec l'arrivée de Mbappé, donc, ça veut dire que la saison dernière, ils gagnent la Ligue des Champions sans Mbappé. Mbappé, il arrive. Donc, normalement, ils sont censés tout remporter. Ils ramènent
c'est
rien.
C'est Barça qui gagne. Et la Coupe et le championnat.
Ouais, voilà. Donc, forcément, il arrive, il peut travailler et il peut imposer. En fait, le mec, s'il court pas, il joue pas. Alors que s'ils avaient tout gagné, il est pas en position de
qui
force.
Qui ne court pas?
Comment?
Qui ne court
les
pas?
Attaquants.
Les trois de devant.
Ceux qui sont devant, ils sont obligés de revenir. On le voit aujourd'hui, c'est un sport collectif. Tu peux plus laisser ton défenseur partir et les mecs, ils vont pas. C'est plus possible. Le meilleur exemple, c'est Paris. Paris, tout le monde fait des efforts. Il y en a pas un qui triche. Mm-hmm.
Non. Mais
et donc, ils sont en préparation, finalement.
En plus, c'est à l'extérieur, parce qu'ils vont sortir de la pression.
Il y aura moins de pression.
La pression madrilène, déjà, quand ils... Enfin, là, ils seront sont à 5000 km, 6000 km, je ne sais pas. C'est pareil, c'est aussi un avantage de commencer comme ça, loin de leur base, dans une bulle plus bienfaitrice que ce qui s'est passé en fin de saison. C'est-à-dire, comme disait Olivier, pas de titre, des supporters un peu... plus que déçu, voilà. Ouais. Avec des nouveaux joueurs. Et Guro a raison.
Ils ont des nouveaux joueurs. Et Mbappé, qui veut également gagner ce ballon d'or. Et il sait, après le soulier d'or, il peut, s'il fait d'excellents matchs, qu'il claque des triplés, des doublés, il sera motivé également pour gagner cette Coupe du Monde des clubs. Et le Real de Madrid en a besoin parce que le ballon d'or, ils l'ont phagocyté. Ils ont besoin de visibilité dans le monde pour dire on a fait une mauvaise saison, mais nous sommes champions du monde et on a le ballon d'or.
C'est ça. Et Vinicius est sur une bonne dynamique. Il est bienvenu avec l'équipe du Brésil. Pas le premier match contre le Paraguay, celui d'après.
J'ai une question pour vous.
Ouais.
Et après, ils ont des vacances ou pas?
Bonne question.
Si, 3 semaines.
Non, alors, j'ai une question parce que sinon, ça fausse la préparation, non?
Olivier, si le PSG va au bout, c'est-à-dire la finale le 14 juillet, le championnat reprend le 15 août.
Mais donc, quand est-ce qu'il prépare la saison prochaine?
Pardon ?
Quand est-ce qu'il la prépare, la saison qui débute ?
Déjà, tu la prépares quand ? Et les vacances ?
Ouais. Ils sont en train de se préparer maintenant, c'est ça ? C'est-à-dire que clubs, ça sert ?
Mais non, ils ne peuvent pas se préparer parce que ça reste une compétition. Après, ils ont besoin de souffler. Ce n'est pas possible, ce n'est pas des robots. S'il n'y a pas 3 semaines, mais déjà qu'ils soient juste dans la tête, en fait.
Vider la tête.
Juste ne plus penser au football un petit peu. Parce que là, sinon, ils vont exploser.
Ça sera sans doute tout le défi de cette équipe. Alors, elle jouera contre l'équipe de Simone Inzaghi, comme on se retrouve. Une équipe vice-championne d'Arabie Saoudite et qui compte un certain...
Khalidou Koulibaly.
Voilà, j'attendais ça. Mais aussi le gardien Bounou, le Marocain, Mitrovic, Lodi et Juan Cancelo qu'on avait vu du côté de Manchester City, qui rentre aussi en lice demain. Donc, une fois que tous ces clubs auront joué une fois, on aura peut-être une vision plus intéressante de la compétition. Olivier Dacour, merci beaucoup
d'être venu dans
Radio Foot. Et alors, allez voir ceux qui nous écoutent sur les traces de papa.
Sur la route de papa.
Sur la route de papa. Et voyez ce film très émouvant sur la famille et sur l'intergénérationnel. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dans Radio Foot pour parler foot, bien sûr.